Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Spotzle, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode spécial lié au numéro 3 de Planète Gravel, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je parle avec Thomas Bourri et son FKT sur la GTMC. Je sais, cela ne veut rien dire, cela ressemble à des termes hermétiques et totalement incompréhensibles, mais rassurez-vous, Thomas va tout vous expliquer et vous verrez, c'est très très simple. Cet épisode donc est lié au numéro 3 de Planète Gravel, actuellement en kiosque et dans lequel vous trouverez un portfolio retraçant le périple de Thomas avec les fantastiques images du non moins fabuleux Ryan Le Garec. Bonjour Thomas.
Salut Richard.
Alors ça, après la 3 tentatives et de connexions infructueuses, te voilà enfin non figé sur l'écran. Et dans les écouteurs, eh bien, autant dire que je suis très très heureux de te recevoir.
D'autant que tu... en soi.
Hein ?
Je dis se connecter est un ultra en soi.
C'est un exploit et je note que pour te connecter, tu es passé par ta propre connexion internet, puis par ton téléphone. Et ne reculant devant aucun sacrifice pour avoir une connexion correcte, tu es allé quémander ça à ta voisine. Donc voilà.
Très gentil,
on peut dire que
qui a accepté.
Tu as été extrêmement convaincant et tu n'as pas manqué d'imagination pour trouver la brèche. Donc, je te félicite vivement. Paraît-il,
merci.
Thomas, que ton premier job, qui est peut-être en lien avec tout le reste, c'est dans les vitraux.
Ouais, c'est ça. C'est loin de mon métier actuel, mais j'ai commencé par ça. Ouais. J'ai fait de la restauration de vitraux pour des églises et de la création contemporaine.
Et aujourd'hui, tu fais quoi ?
Aujourd'hui, quand je fais pas de vélo, j'achète des vélos puisque je suis acheteur pour un réseau de magasins qui s'appelle Cyclable, dont le siège social est à Lyon et on a une 60aine de boutiques en France. Voilà, ce nouveau métier.
Et avant, tu étais messenger, comme tu me l'as dit tout à l'heure.
Exactement, j'ai eu plusieurs périodes, dont celle de coursier à vélo, à Paris puis à Melbourne. Ce qui m'amène à connaître certains de tes invités comme Sofiane
oui.
ou Stéphane, avec qui j'ai eu l'occasion de bosser. Ouais.
Alors ce qui est très très drôle, effectivement, comme tu me l'as dit tout à l'heure avant que l'on débute l'épisode, c'est que l'interview industrie dans le magazine est avec Émeric Lebrun, donc de CIFAC, que tu connais, et l'interview du pro, c'est avec Sofiane Sehili, avec lequel tu as travaillé. D'ailleurs, tu travailles aussi avec Émeric pour ses vélos, et tu as travaillé avec Émeric et tu connais certains de mes gars et de mes invités favoris. Donc ça, c'est extrêmement drôle. Le monde est décidément bien petit. Le monde du vélo, en tout
ouais,
cas.
J'allais dire, voilà, l'écosystème vélo n'est pas très grand.
Surtout chez les messengers et dans le bikepacking, on a vite fait le tour quand même. On retrouve toujours les mêmes.
Exactement.
Bon alors Thomas, on va passer sur des notions scientifiques. C'est quoi un FKT ?
Un FKT, c'est un fattest known time. C'est, je ne sais pas si on pourrait appeler ça une discipline, mais c'est un exercice qui consiste à réaliser un parcours le plus rapidement possible en respectant un certain nombre de règles qui sont, entre autres, l'autonomie, l'autosuffisance, voilà, pour résumer rapidement.
Quelle est la différence entre un temps le plus rapide connu et un record ?
Bonne question. Je crois que moi-même, j'ai pas bien la réponse. On a défini ce que j'ai fait comme étant un record, comme étant un FKT. Moi, j'appelle ça une traversée, plus simplement. Je dirais qu'un record, c'est détenir, je sais pas, une symbolique, un temps qui n'a pas été battu. Un FKT, c'est à peu près similaire, on dira la même chose. C'est le record à la française, on dira.
Bah là, donc tu disais tout à l'heure, c'est un exercice et aussi un courant très actuel, justement, parce qu'on a sur nos disciplines bikepacking, mais aussi ultra trail, parce que les deux sont extrêmement liés. On a vraiment ce courant qui se développe énormément sur. Alors toi, tu es probablement le pionnier en France à le faire sur la GTMC, donc la grande traversée du Massif central. Et c'est plutôt un courant que l'on voit beaucoup aux États-Unis, un petit peu également en Écosse sur un trail un petit peu velu dans les Highlands. Mais en France, en tout cas, tu es un pionnier. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu vis bien
Écoute,
ce nouveau statut de défricheur?
ouais, j'avais surtout l'envie de me faire plaisir sur ce parcours qui me tenait à cœur. C'est effectivement les FKT, on en voit beaucoup aux États-Unis. Ça vient principalement du trail running. Le vélo s'y est mis et on a vu quelques belles réalisations qui ont été communiquées sur YouTube et qui ont donné accès à une plus grande audience à ce format d'aventure, je dirais. Donc ravi, oui, d'amener ma pierre à l'édifice avec le petit drapeau bleu, blanc, rouge.
Bon, en plus, tu as fait ça avec une petite difficulté supplémentaire, une sorte de petit cadeau bonus qui fait plaisir. Tu étais donc la GTMC, c'est une trace plutôt VTT quand même, plutôt tout terrain engagé qui pourrait passer. Bon, là, on est vraiment à la frontière entre gravel et VTT, hein, donc c'est
Alors,
difficile. Oui, vas-y, vas-y, t'as une rectification?
j'ai un avis très
Vas-y.
clair, très très clair. La GTMC n'est en aucun cas une trace gravel, ou à la rigueur, si elle l'est, probablement et uniquement sur sa première partie jusqu'à
Ouais.
Clermont-Ferrand, mais il faut bien se mettre en tête que c'est bien l'itinéraire VTT. voilà, j'ai appris de mes
Ouais,
erreurs.
tu l'as vu de tes yeux vus. Bon, alors donc, on va appeler ça une trace tout terrain, parce qu'on trouve toujours des hurluberlus qui sont capables de passer ça sur un gravel en pneu de 35, mais c'est quand même pas la majorité. Donc toi, tu as fait ça en single speed, c'est-à-dire un plateau minuscule et un pignon à l'arrière, avec une roue libre quand même.
Oui, avec une roue libre, ouais. C'est effectivement, il y a souvent des fois les amalgames pour les gens qui n'ont pas l'expertise vélo. Donc un pignon fixe, c'est bien quand le pignon est solidaire de la roue et donc tant que la roue tourne, le pédalier tourne. Et un single speed, c'est comme un vélo classique, sauf que je n'ai pas de derrière.
Pourquoi ce choix? Parce qu'on pourrait dire le single speed, c'est la simplicité, mais c'est quand même une sacrée complexité à gérer au quotidien. Parce que finalement, t'as pas de rendement sur le plat. Dans les descentes, bon, tu te laisses emmener. Et dans les côtes, il faut quand même viser juste pour pouvoir passer sur le vélo.
C'est à peu près ça, c'est comme un film de merde. Il y a une action, c'est une côte, il faut tout donner et après il se passe plus rien, c'est l'ennui il faut être un peu résilient. Pour te répondre pourquoi, j'ai donc été coursier à vélo et je dirais dans ce temps de carrière, j'ai travaillé sur un pignon fixe. Je roule toujours en vélo taf avec un pignon fixe et je continue voilà, au quotidien de pédaler avec ce type de vélo. Et j'avais envie de retrouver quelque chose d'un peu épuré, ouais, une simplicité. Et puis il y avait, alors je vais me faire chambrer par mes potes qui vont écouter ça, mais
Non, t'inquiète, ils écouteront pas. Ils s'en foutent.
je trouvais que dans la vie, on est toujours en train de chercher la bonne vitesse pour avancer. Et finalement, s'imposer une vitesse, c'était aller avec le flow, c'était aller avec la résilience, et ça allait bien avec ma philosophie.
Donc c'était
Voilà.
autant une expérience sportive que pratiquement mystique ou spirituelle ou une quête quelconque. C'était un petit peu à
Ouais,
mi-chemin entre les deux en fait.
Je suis un amoureux du pignon fixe, ça a été vraiment une révélation. Il y a une relation au vélo qui est complètement différente. Et le single speed, finalement, et d'autant plus en VTT, amène à une connexion effectivement avec son environnement, avec ses sensations, etc. Et qui était effectivement voilà, quelque chose que je voulais retrouver et que j'ai bien trouvé.
Est-ce que tu l'as pas trouvé un petit peu trop à ton goût par moment? Est-ce que t'étais pas un petit peu trop connecté quand même?
Ah bah ça a été un long parcours avec des hauts, des bas et il a fallu arrondir les angles.
Juste une petite question technique par rapport à la participation de Ryan Le Garec sur les images. Quand on parle d'autonomie pour valider un FKT, on a vu récemment que ça a fait pas mal de vagues. Quand on dit autonomie, autosuffisance, ça veut dire l'absence d'une équipe média qui pourrait fournir une aide entre guillemets illicite par des encouragements. Éventuellement une bouteille d'eau par-ci par-là, un cornet de frites, mais surtout des encouragements qui peuvent faire plaisir. Comment tu t'es organisé avec Ryan, tant soit peu que vous soyez organisé pour essayer de rester dans les règles, justement pour que tu ne bénéficies pas des conseils avisés de Ryan et qu'il reste à l'écart de toi?
C'est une large question auquel on a débattu en construisant ce projet. Je vais te dire, de l'extérieur, on appelle ça un FKT. Pour moi, c'était une traversée. Peu importe le nom qu'on y apporte, pour moi, mon intérêt, c'était de mettre en avant cette trace qui est quand même somptueuse. Et après, on y appose le nom que l'on veut. Donc, au-delà du fait qu'il y ait eu Ryan qui était présent pour filmer et prendre ces images qui sortiront à l'automne prochain, il faut savoir qu'il y avait mon papa également qui était sur ce projet, qui conduisait le van pour que Ryan puisse shooter. Donc, effectivement, on peut appeler ça un support émotionnel, on peut appeler ça une connexion, quelle qu'elle soit. Oui, je savais que mon papa était pas loin. Oui, j'ai croisé Ryan qui a fait des bouts de parcours avec moi. Je peux pas l'enlever. Je pense que notre objectif, il était très clair en fait. C'était de faire une traversée, c'était de ramener des images et permettre au plus grand nombre d'accéder à l'intérieur de. Qu'est-ce que c'est qu'une aventure comme celle de la GTMC? Qu'est-ce que c'est que prendre son vélo et partir plusieurs jours sans s'arrêter en autonomie? Donc, j'ai pas grand-chose à dire je dirais aux contrevenants ou ceux qui sortiraient les drapeaux rouges pour dire c'est pas vraiment FKT parce qu'on a bénéficié d'un support émotionnel. Appelez ça comme vous voulez. Moi, je me suis fait plaisir sur mon vélo. Voilà mon point de vue. Et je pourrais pas dire mieux finalement. Ça a été un vaste débat, notamment avec les projets de la L.
Oui, là, Will Cox.
Wilcox qu'on a vu. Je pense aussi, et c'est pour ça que je dissocie très bien les projets médias, comme celui de la GTMC, et puis l'aspect compétitif lors d'une course, où effectivement, moi je sais qu'à titre personnel, je dissocie bien ça, quoi. Je n'irai pas prendre une équipe média sur une course à moins que ce soit mandaté par l'organisation, etc. Et voilà. Donc chacun y met le cadre qu'il a envie.
D'accord. Pour rappeler un petit peu, la GTMC, c'est quoi? Outre que c'est la grande traversée du Massif central, de quoi parle-t-on? Quel est le départ, quelle est l'arrivée, quelle longueur et quel dénivelé? Et quel terrain? C'est important, quelle surface?
Donc la GTMC c'est un parcours donc VTT qui est historique, qui a été créé dans les années 95, qui partait initialement de Clermont-Ferrand pour rallier 7, si je dis pas de bêtises. Et puis bon bah il y a eu le temps a passé, etc. Et puis la trace a vu sa fréquentation un peu baisser. Et en 2015, il y a eu un travail de fond qui a été mené par les coordinateurs de la GTMC pour aboutir à une version que l'on connaît aujourd'hui, qui a été donc mis au jour en 2018, et donc avec un itinéraire qui part de Avallon en Bourgogne, au début du parc régional du Morvan, et qui s'étend donc jusqu'au Cap d'Agde sur les bords de la Méditerranée. Donc c'est un itinéraire qui fait 1380 km et qui est vendu pour entre 25 et 30 000 mètres de dénivelé. Moi, mon GPS a enregistré un tout petit peu moins que 27 000. mètres. Donc voilà, c'est un parcours assez exceptionnel qui traverse donc 10 départements, 5 régions, plusieurs sites classés UNESCO. Et voilà, en quelques mots.
Alors, je vais me permettre une petite précision parce que là, tu viens de dire donc c'est un parcours VTT, un parcours VTT historique, et pourtant on te voit, pardon, apparaître dans un magazine Gravel. Et on a dit tout à l'heure que, mis à part le début, effectivement, dans le Morvan qui est assez roulant jusqu'au Massif Central, jusqu'à Clermont-Ferrand, ce qui fait déjà une belle balade hein, quand même. Hein, ça laisse de quoi.
Qui fait à peu près 680 km exactement, puisque je l'ai fait en
Voilà,
2015. Voilà.
donc ça laisse déjà de quoi rouler et d'aller traîner ces petits pneus de gravel là-bas. Donc ça fait déjà une belle balade. Mais on pourrait se dire, ok, magazine gravel, le gars nous parle de VTT. D'accord, il était en single speed. Mais je vais me permettre quand même une petite précision, c'est que tu as fait ça donc vraiment à la sauce bikepacking, autonomie, autosuffisance, ce qui diffère totalement de la culture VTT. Où on aurait plus eu quelque chose, certes, éventuellement avec le sac à dos, les sacoches, mais pas avec avec cette notion d'autosuffisance et d'autonomie vraiment forcenée. Là, on se rapproche vraiment et totalement du bikepacking, et on sait que la frontière, enfin que le gravel, le bikepacking, le tout-terrain, toute cette nébuleuse est un petit peu liée, la frontière est parfois un petit peu ténue, voire floue. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, tu es dans le magazine. Au même titre que Pierre Arnaud, qui a fait une traversée de la Suisse à peu près sur les mêmes mensurations, autour de 600-700 km avec 20 000 de dénivelé, avec les vélos de sa marque avec des gros pneus. Donc c'est pour ça. Le gravel est une chose, mais la segmentation du gravel, d'un gravel roulant sur piste verte à quelque chose de plus extrême, plus engagé, ce n'est pas le même vélo. C'est toujours un gravel, mais c'est pas le même type de vélo. Donc il faut aussi bien comprendre de la variété des types de pratiques, des types de vélos qu'on peut rencontrer quand on parle de gravel, tout simplement.
Je suis en phase.
Magnifique.
Et j'irai compléter. Donc, je te disais que je l'ai fait en 2018, cette trace. Je suis parti de Clermont-Ferrand et je suis remonté à Avallon parce que j'ai la particularité d'être natif de Bourgogne et je suis né à 60 km d'Avallon. Et j'avais fait ça en 2018 avec un vélo plutôt typé gravel puisque c'était un Cinelli Mach qui était déjà monté en single speed et j'avais fait ça avec des pneus. En 32, qui étaient des pneus de cyclocross, des challenges, je me souviens. J'étais parti en chambre à air et j'y connaissais pas
Ouais.
grand-chose. Et ça s'était quand même bien passé, malgré
Ouais,
quelques
parce que le
crevaisons.
Cinelli Mach, c'est quand même le modèle iconique des messengers ou en tout cas des hipsters de San Francisco. Vraiment pur pignon fixe et tout. Tu m'aurais dit un Zydeco de la même marque, j'aurais compris. Mais là, le Mach, ouais, t'es quand même allé au-devant des problèmes. Mais apparemment, ça s'est bien passé.
Ça s'est bien placé et j'ai eu plein de problèmes et qui ont tous trouvé solution et c'était une superbe aventure.
Et là, sur cette GTMC, est-ce que ça s'est passé comme dans j'allais dire comme dans du miel, mais non, l'expression correcte, c'est comme dans du beurre. Est-ce que ça s'est passé comme dans du beurre ou au contraire, tu as quand même fait face à une petite série de péripéties, d'avaries et d'entourloupes en tout genre?
Ouais, bah de toute façon, quand on part faire 1 400 km, s'il n'y a pas de problème, c'est que c'était trop bien, c'était trop lisse.
C'est que c'était trop
C'est
facile et que tu avais choisi le mauvais truc en fait. T'étais trop. Il fallait
c'est
quand
pas
même
au
se
bon
mettre un peu
endroit.
en difficulté. Est-ce que tu arriverais à isoler un top 3 de tes galères?
Ouais, alors le premier, on va en parler parce que c'était juste avant. C'était la veille de prendre le départ, donc j'habite à Lyon, donc je pars de Lyon pour aller en Bourgogne. Bien évidemment, quand on fait ce type d'aventure, on prépare son matériel, on le revoit une fois, deux fois, trois fois, on s'assure de rien avoir oublié. Et
Ce
bien
que tu n'as pas fait
évidemment,
apparemment.
apparemment, bien évidemment, donc arrivé une fois chez moi en Bourgogne, je m'aperçois que bah, je n'ai pas ma veste de pluie. Et Dieu sait que c'est un élément très important pour les backpackers, et d'autant plus il a plu continuellement pendant les 24 premières heures, donc c'était quand même un élément clé de l'attirail du backpacker. Donc ça, c'est la première. La deuxième, on va rester dans le Morvan, c'est les 24 premières heures, donc il y avait eu beaucoup d'orages et des conditions climatiques défavorables avant que je prenne le départ, et qui ont beaucoup abîmé les chemins, avec beaucoup beaucoup d'arbres cassés. Et donc je me suis retrouvé pendant 10 à 20 minutes, des fois, à essayer de passer au travers d'arbres, et mon vélo, moi et mon vélo, en cassant des branches, etc. C'était assez... assez cocasse quand tu viens pour faire du vélo et que tu te retrouves à Elager. Et puis la troisième, je dirais c'est plutôt une phase qui est plutôt au niveau des gorges du Tarn. Dans ces environs-là, je pourrais parler de l'orage dans lequel j'ai été pris avec la foudre qui est tombée à juste à côté de moi, qui m'a vraiment laissé blanc. Blanc comme neige, mais je dirais cette partie-là qui a été extrêmement compliquée d'un point de vue climatique, d'un point de vue terrain et puis d'un point de vue mental, parce que j'avais prévu de faire 5 jours, j'en mets 6, j'avais prévu de faire 4 nuits dehors, j'en fais 6 complètes. Donc c'était le moment où il a fallu aussi se reconfigurer mentalement pour se dire ok, ça va être plus long, et c'était pas ce que j'avais prévu. Voilà trois gros, en tous les cas trois éléments qui ont jalonné ce parcours.
Alors je suis partagé entre un truc, passer sur un élément plutôt matériel ou creuser un petit peu cet élément de reconfiguration lorsque l'on sent que le projet initial nous échappe, et que l'on est obligé de reconsidérer nos espérances un petit peu à la baisse, mettre 6 jours au lieu de 5, dormir dehors et se retrouver à l'hôtel, etc., etc. On va reconfigurer les attentes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé justement pour que tu sois obligé de reconfigurer un petit peu ton cerveau en mode 6 jours et non pas 5?
Donc, c'est-à-dire que lorsque je prépare la GTMC, donc c'est un projet quand même qu'il faut l'avoir en tête. Donc, moi je l'appelle ça un projet média. Donc, l'idée, c'est de faire une traversée. Et il y a des gens autour qui travaillent sur ce projet. Donc, que ce soit des partenaires, Marc, Ryan, mon papa, ou les acteurs qui s'occupent de la GTMC, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger lors de la préparation de ce projet, et notamment l'analyse du terrain. Suite à ces analyses et les temps d'échange, voyant ce que je faisais à l'entraînement, etc., 5 jours était le temps finalement sur lequel je m'étais aligné avec... certains pourront penser que c'était prétentieux de ma part de pouvoir finir ce parcours-là en 5 jours. Moi, je reste convaincu que ce parcours, il peut se finir en 5 jours, et même moins. Mais avec le bon équipement, et pas en single speed, et pas en fourche rigide, et bien évidemment. Mais avec des scies, on refait tout. Il s'est avéré, donc, il y a la version papier de la GTMC, hein, qui dit 26 000 mètres de dénivelé, qui dit 1400 km. Mais on parle pas de la cyclabilité. Et la cyclabilité, c'est un élément qui est prépondérant dans la préparation d'aventure, je dirais, ou de préparation de course. C'est est-ce que je peux pédaler sur ce dénivelé, est-ce que je le pédale assis sur ma selle, ou est-ce que je me retrouve à pousser mon vélo parce que c'est trop pentu, parce que le terrain est trop technique, etc. Et effectivement, je savais que la deuxième partie du parcours allait être compliquée, mais à ce point-là, pas du tout, et je me suis retrouvé donc dans des portions... à devoir pousser mon vélo, à remonter des GR de randonnée. Et effectivement, ça a rallongé l'addition, on dira.
Ouais, c'est toujours agréable de prendre un GR avec son vélo, hein, c'est rigolo. Nos chaussures apprécient énormément, aux extrémités, sur les talons. C'est toujours un plaisir.
Donc j'avais bien fait de mettre des chaussures VTT qui me permettent de marcher, qui étaient quand même plutôt confortables.
Plutôt souple.
Plutôt souple. Ce qui m'a un peu dérouté, Bien évidemment, bon, il y a la version papier, il y a la version terrain. Il faut savoir que la GTMC, c'est un itinéraire France Vélo Tourisme qui est labellisé par la Fédération française de cyclisme, donc reconnu comme un itinéraire accessible à tous. C'est-à-dire que, je sais pas, toi, demain, avec tes gamins, ta femme, tu souhaites prendre la route avec tes sacoches, tu es censé pouvoir venir à bout de ce périple, et il s'avère que y a des passages qui sont tout à fait plaisants, etc. Il y a des passages où clairement c'est pas du VTT, et même si j'avais eu des vitesses, même si j'avais eu une fourche suspendue, clairement c'est inroulable et on est vraiment sur du portage pendant de longues sections. Et c'était un peu ce truc à deux vitesses qui m'a complètement dérouté et sur lequel j'étais pas du tout prêt, et surtout que j'avais échangé avec la GTMC. Donc bon, le point positif, c'est que cette aventure, elle a permis d'amener beaucoup de feedback terrain au coordinateur de la GTMC pour réalerter, remettre en avant, attention, il y a des parties où aujourd'hui c'est pas viable et il faut trouver des itinéraires bis pour que, je sais pas, tout à chacun puisse continuer à se faire plaisir.
Ouais, on a des surprises des fois sur ces parcours, et c'est bien que tu introduises la notion de cyclabilité ou de roulabilité, si on pourrait dire. Il faut quand même qu'on puisse rouler un maximum, alors un petit poussage de temps en temps sur quelques dizaines de mètres ou même quelques centaines de mètres en montée, en descente avec des obstacles, des cailloux vraiment trop gros, des racines, des machins, des pentes, ça passe. Mais quand ça s'éternise au-delà de plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures, étonnamment, tout le monde perd son sens de l'humour dans ces moments-là.
Ouais, il y a cet aspect-là, et puis je pensais aussi le fait que ce soit un itinéraire accessible à tous. Il faut aussi se dire qu'il y a des gens qui, si moi, Thomas Bourich, je suis là à pas avancer, à trouver ça extrêmement difficile, et être au point de rupteur, mais alors qu'est-ce que c'est pour le néophyte qui a pris son VTT pour la première fois avec ses sacoches et qui se retrouve face à ces difficultés et à des endroits avec pas juste de la difficulté, mais des passages qui pourraient être dangereux et mettre en... Ouais, je pense que c'est de la responsabilité aussi de ceux qui entretiennent ce parcours, le mettent en place et le coordonnent, de s'assurer effectivement que chacun puisse être en
Oui, parce
sécurité
qu'il y
aussi.
a, il y a la, là, je te rejoins totalement, j'ai oublié de le préciser, mais on parle de la difficulté, mais il y a aussi la notion de sécurité où justement on peut se mettre un petit peu en péril. Alors on va pas forcément mourir ou se blesser grièvement, mais on peut toujours, alors ça peut arriver n'importe où, moi je peux tomber de ma chaise là maintenant, mais on peut glisser, se faire extrêmement mal, tout ça parce qu'on est sur un parcours pas tout à fait calibré, vraiment pour du vélo. Et c'est vrai que je me pose toujours la question, mais qui sont les gens qui ont eu l'idée de mettre ces trucs-là à cet endroit? Parce que clairement, ça roule pas. Ou alors, ça se fait.
Alors j'ai des éléments de réponse. Il semblerait, je parle juste pour la partie qui est autour de l'Aigoual, vers Montpellier, que ce soit le club local de VTT qui a eu la bonne idée de gérer une partie de ce tracé-là. Et je ne sais pas quel Jean-Michel Foufou du vélo a tracé ça, mais en tous les cas, il l'a probablement tracé sur le papier, mais il n'est jamais vu mettre ses roues à cet
Bah,
endroit-là.
puis y a des passages, enfin tu sais très bien, sur un truc longue distance, avec les sacoches, avec tout, on va privilégier un passage lentement ou un passage même encore mieux à pied. Et à l'entraînement, eh ben, on va être à vide, on va être en pleine forme, on a bien mangé, on a bien dormi, et un coup d'injection, et ça passe. Mais sauf que sur un truc bikepacking, avec le chargement, un coup de fatigue et une demi-hypo qui traîne, voire une petite déshydratation en bonus, bah, étonnamment, ça passe plus du tout. Et au-delà de cet aspect nutritionnel, eh ben, il y a aussi la gestion d'effort, et qu'on va pas s'amuser dès que ça monte à mettre un gros coup, à faire péter les watts. Parce que là, c'est sûr qu'on verra jamais le Cap d'Agde et ses plages naturistes. Ce qui serait quand même bien dommage. En fait, c'était ta seule
C'est quand
motivation,
même
c'était
dommage.
d'aller voir des culs, en fait.
C'était presque ça. Ouais. Non, alors donc on a parlé du début. Je suis né à 60 km du départ. Et le Cap d'Agde, alors j'ai questionné mes parents pourquoi le Cap d'Agde, mais il paraît que c'était tendance à l'époque, mais j'y ai passé quelques étés en étant gamin, habillé. Mais voilà, c'est finalement un peu ce qui m'a lié aussi à ce parcours. C'était mon histoire personnelle et celle d'être né non loin du départ. Celle d'une arrivée où j'avais des souvenirs de gamin. Et puis, en septembre l'année dernière, j'ai proposé pour les 60 ans de mon papa qu'on se fasse un périple à vélo. Alors, lui proposer la GTMC aurait été trop difficile. Mais donc, on a fait un itinéraire assez similaire à celui de la GTMC en vélo de route. Donc, on est parti du Cap d'Ac pour remonter jusque chez nous en Bourgogne et arriver le jour de ses 60 ans à la maison avec les copains, etc. Et donc voilà, il y avait cette historique là personnelle, géographique, etc. L'histoire avec mon papa, le fait d'être venu en 2018 et qui était un peu le fil conducteur de ce projet-là.
Si on parlait un petit peu de ton vélo, alors déjà, oui, avant de parler de ça, bravo pour ton père parce que 60 ans et toujours être vaillant sur un vélo, c'est toujours magnifique. Et partager ça avec ses proches, c'est toujours très très agréable. Ça fait d'excellents souvenirs. Et il en faut des souvenirs.
Ouais, je peux que recommander que ce soit avec votre père, votre mère, un copain. Voilà, partager ça, c'est beau. Ouais.
Ton vélo.
Mon vélo.
Il est beau.
Mon vélo, il est relativement simple.
Bah oui, évidemment, il y a rien.
Il est beau. Il est beau mon vélo, ouais. Il n'y a pas grand chose. Donc mon vélo, j'ai roulé cette traversée avec un vélo de la marque Kona, qui est partenaire sur ce projet-là et qui m'accompagnera dans les prochaines saisons à venir. Donc c'est un Kona Unit je sais que les mordus de vélo connaissent ce vélo qui a un historique un peu long et il y a une espèce de communauté autour de ce vélo-là. Donc c'est un VTT en acier qui donc n'a pas de vitesse et qui a été monté avec des pièces Ricché, puisque Ricché était mon partenaire plutôt historique, je dirais. Et donc on peut retrouver dessus une fourche rigide en carbone et d'autres composants un peu plus techniques et orientés performance.
Question bête, pourquoi ne pas avoir fait le projet sur un Ricché, sachant que toi, si c'était ton partenaire historique et qu'en plus Ryan travaille déjà pas mal pour Ricché, pourquoi ne pas être resté sur un Ricché? Est-ce que c'est légitime comme question ou c'est indiscret?
Non, je pense que c'est bien de poser la question et c'est bien aussi que les gens comprennent peut-être la mécanique derrière. Comment est-ce qu'on monte un projet comme ça? Comment est-ce que c'est viable et comment ça marche? Donc, Ricché, ça fait un peu plus de 2 ans que je bosse avec eux. Je roule sur un vélo Ricché de route en acier. Ils me soutiennent dans quelques-uns de mes déplacements et sur la partie pièces, etc. Donc je peux que les en remercier pour ça. Aujourd'hui, pour monter un projet comme la GTMC, d'un point de vue logistique, d'un point de vue sortir des images, payer Ryan, parce que tout travail mérite son dû. Ouais. Voilà, monter tout ça, ça a un coût. Et Ricché reste une petite structure et ne pouvait pas supporter... seule la réalisation de A à Z, et puis j'avais pas forcément envie de ma poche sortir tout ça. L'idée, c'est aussi d'emmener des partenaires avec moi dans cette aventure et de vivre ça à plusieurs. Donc Kona a été un partenaire particulier parce que je suis plutôt lié aux matériaux de l'acier. Je roule sur un vélo de route en acier. Je trouve mon pignon fixe est un vélo en acier, hormis le mâche, mais de chez Sinelli. Mais voilà, j'ai une relation à ce matériau qui est assez fort. Et Kona, il s'avère qu'ils ont ce produit-là dans leur gamme et qui aussi est une plus grosse machine et a la possibilité d'investir plus dans ce projet pour le rendre viable.
Ce qui signifie aussi que le Kona avait le triangle arrière nécessaire. Pour justement régler un single speed. Donc on peut pas juste prendre, pour être précis, pour les lecteurs auditeurs qui ne voient pas exactement de quoi on veut parler. On ne peut pas prendre juste un vélo habituel, mettre une seule vitesse à l'arrière et voilà, il y a un problème de tension de chaîne. Donc il va falloir pouvoir régler le moyeu arrière dans l'axe horizontal, en avant ou plus en arrière, pour tendre la chaîne et avoir une bonne tension, une bonne friction.
Voilà, donc ce vélo, il a la particularité de permettre les deux, soit de le rouler en single speed, soit d'y apposer un dérailleur. Et j'aurai d'ailleurs un dérailleur très prochainement sur ce vélo pour mes prochaines aventures. Mais effectivement, voilà, c'était effectivement dans l'offre de marché, il n'y a pas beaucoup de vélos qui permettent ça. Et puis, je trouvais que les valeurs de la marque et l'historique collaient bien aussi à ce que je voulais faire. Richie, c'est aussi un acteur historique du vélo. Tom Richie, c'est un des premiers qui a créé le mountain bike en même temps que Breezer. Donc voilà, c'était aussi une volonté d'aller chercher des partenaires qui soient, qui aient du sens pour moi. Et après, il y a cette réalité économique derrière, effectivement.
Sur ton vélo, alors, tu étais en quelle section de pneus ? Quelle dimension de roue et quelle section de pneus ?
Donc, sur la partie technique, c'est des roues de 29 pouces qui étaient montées sur des pneus en 2,25 et 2,2.
Donc, 2,25 à l'avant, 2,2 à l'arrière, je suppose.
Voilà, avec deux... Exactement, avec deux pneus différents de la marque Maxxis. Une volonté, ça peut paraître pour ceux qui connaissent des sections de pneus petites, mais qui, dans l'idée que je m'étais faite de la GTMC, qui était un parcours un peu plus roulant, m'allait être
grandement suffisant.
Un atout. Il s'avère que si c'était à refaire, je mettrais du 2,4 et je mettrais des vitesses et une fourche.
Ouais, en fait, tu prendras un vélo normal.
Il faut dire quand même que j'avais pas de fourche à suspension à l'avant. J'avais une fourche rigide.
Et carbone en plus.
En carbone de chez Richie, justement. Voilà. Parce que la particularité quand même du single speed, c'est qu'on se retrouve beaucoup en danseuse et c'était aussi une volonté de retrouver de la rigidité sur l'avant du vélo pour pas perdre effectivement cette dynamique lorsqu'on monte.
Donc si c'était à refaire, t'arrêterais ton délire single speed et tu te dirais bon là je prends un vrai vélo.
Non, je suis content d'avoir été.
Ah mais tu l'as fait, c'est super bien, mais n'empêche que visiblement t'en as bavé au-delà du raisonnable et que peut-être ton jour en extra en bonus, tu l'as paumé pour ton choix de matériel.
Je me pose la question d'aller faire des courses en single speed. Je pense que bon, faut être quand même réaliste, le niveau aujourd'hui en ultra devient de plus en plus compétitif et ces vélos-là ne permettent pas, je pense, d'aller chercher en tous les cas la gagne, mais c'est assez intéressant de voir, par exemple, des gars comme Chris Plesko sur le Tour Divide qui arrive à finir en 15 jours, à peine 2 jours du record vitesse. On l'a vu, c'était il y a 2 ans, je crois, sur la Highland 550. Avec Liam Glenn qui gagne en rigide single speed, donc devant des vélos à vitesse et avec des suspensions. Donc, je pense qu'il y a certains terrains qui permettent, en tous les cas, de performer avec des vélos comme ça.
Ouais, faut vraiment bien choisir son coup parce que là, tu parles de la Highland Trail, on en a parlé récemment et tu as peut-être entendu l'épisode avec Jean qui fait 4e ou 5e. Et là, tu donnes l'exemple de ce gars en single speed et rien qu'à l'évocation de son nom, ça sent le gars du cru qui connaît le terrain par cœur. Là, cette année, ça fait plein de fois que j'en parle, faut absolument que je discute avec lui, il a l'air mortel. C'est Angus Young, qui n'est non pas le guitariste de AC/DC, mais bien un prof de chimie écossais. Et tout ça, ce sont des gars du coin et on peut pas prétendre arriver dans les Highlands avec la météo, avec le terrain, avec tous ces facteurs aussi différenciants par rapport à nous et performer. Et parfois, la connaissance du terrain fait quand même beaucoup, beaucoup de choses.
Ouais, c'est certain. Et après, je pense que sur des profils un peu plus techniques et plus montant que plat ou descendant, le single speed reste un élément de choix pour faire ces parcours-là. Enfin, il n'y a pas d'autre choix que de pédaler fort. Donc après, effectivement, ça demande un engagement physique plus conséquent. Et je peux te le dire, j'ai encore quelques
T'as encore des
douleurs
séquelles?
au genou qui subsistent.
Et là, tu as donné plein d'exemples de gars qui ont performé en single. On peut citer la semaine dernière un Italien dont le nom là m'échappe totalement sur la transcontinentale. Et il termine en un temps extrêmement solide en single speed route. Peut-être. Non, alors non, là je pense qu'il était en single speed, mais c'est en tout cas c'est un. Ouais, il
Il
était
était
en
en pignon
pignon fixe
fixe.
l'Italien. Ah, mais
C'était en
lui,
pignon fixe.
il est givré. Hein.
Ouais.
Il est super cool, il est super sympa et on a échangé deux, trois fois. Je regrette qu'il ne parle pas mieux français, mais il est vraiment super, super cool. Et pour terminer là-dessus, on pourra citer également Thomas, pardon, Bigot l'année dernière sur le Biking Man Pays Basque, je crois. Et quand ça grimpait.
Benoît Bigot, faisons-lui
Pourquoi j'ai dit
plaisir.
quoi?
Benoît Bigot, je crois qu'il s'appelle. Thomas Bigot.
Ah non, mais là, ah ouais. Ah ouais, là, l'erreur
Erreur.
fatale, quoi, la honte, l'humiliation. Benoît Bigot.
Non, non, mais effectivement, ouais, ce gars-là aussi, ouais,
Et tu
fait du
vois,
pignon
il m'a
fixe,
dit,
ouais.
enfin, ça dépend vraiment du terrain, parce que quand c'était un petit peu montant, gentil, qui pouvait pousser et exploiter sa force, très bien, il était devant. Quand ça a vraiment commencé à devenir plat et encore plus vent arrière avec un braquet limité. Tout le monde était sur la plaque dans les prolongateurs et lui, il moulinait à 120 tours minute, il avançait plus. Donc, et c'est là qu'il a perdu vraiment du temps. Donc, performer en single, ouais, pas de problème, mais il faut vraiment que ce soit adapté au terrain et avec une fine connaissance du terrain et de la surface.
Ça a été un casse-tête effectivement pour choisir les bons ratios sur le vélo. Donc j'ai roulé avec un plateau de 32 à l'avant
Ouais.
et 20 à l'arrière. Donc je ne peux pas parler de ratio. En gros, à 90 tours minute, on est aux alentours de un tout petit peu moins que 20 km/h. Donc ça permettait finalement de jongler un peu avec un profil plutôt roulant en première partie de traversée et plutôt technique. Après, sachant que donc j'habite à Lyon, on a les monts du Lyonnais
Oui.
juste à côté et on est sur des ratios kilomètres dénivelés qui sont relativement très très vite très importants. Et j'avais déjà bien testé ce setup et ça avait plutôt bien fonctionné. Et je regrette pas d'ailleurs, si je devais le refaire en cycle plus, je garderais les mêmes pignons et la même configuration. Ouais.
Depuis tout à l'heure, tu expliques que
Même si j'ai
tu
mal
es.
au genou.
Ah oui, ah oui, tiens, parlons des séquelles, hein, parce que c'est rigolo et tout. Ouais, j'ai fait un FKT, j'ai le meilleur temps, j'ai fait ça en single speed. Mais bon, si tu peux pas faire de vélo pendant 6 mois parce que t'es cassé en deux, hein, voilà. T'as eu quoi comme séquelles? Qu'est-ce que tu as encore comme séquelles?
Alors, ce qu'il faut dire et ce qui. Donc, j'ai l'habitude quand même de faire du pignon fixe. J'en ai fait beaucoup cet hiver. J'en fais encore au quotidien pour aller au boulot. Donc, j'ai déjà l'habitude de rouler une seule vitesse. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le monde du vélo va quand même pas très bien depuis le Covid. Et accéder à un vélo, c'est un vrai combat. Et donc, mon vélo est arrivé à peine 2 mois. Avant le début de la GTMC, ce qui m'a laissé finalement assez peu de temps pour très vite m'adapter et prendre en main et puis habituer le corps à ce nouveau format. Ce qu'il en reste comme séquelles, aujourd'hui j'ai toujours plus de sensation dans les deux doigts de la main, là.
Ouais.
C'est toujours poussif. J'ai une inflammation du nerf ulnaire, mais comme beaucoup d'ultracyclistes connaissent, ça c'est en train de revenir, mais c'est assez lent. J'ai des petites douleurs résiduelles dans les genoux et dans les tendons rotuliens qui sont liées au fait d'être vraiment toujours en force et en prise continuelle avec un vélo qui a pas de vitesse. Et puis voilà, j'ai des petites douleurs aux chevilles. J'ai eu des épanchements de synovie, donc. J'avais les chevilles qui avaient triplé de volume entre la marche, la pression exercée constante sur les pédales, qui a laissé quelques petits bobos. Et puis voilà, après globalement, physiquement ça va très bien, musculairement on récupère super vite. Si tant est qu'on s'entraîne avant, mais ce qui reste, c'est un peu de fatigue centrale.
Ouais. Voilà. Bah bravo, je vois que tu avais écouté l'épisode avec Guillaume.
J'ai fait un petit post. Tout à fait. J'ai fait un petit post sur mes réseaux pour parler justement de l'après-course parce qu'on n'en parle pas assez.
Ouais.
Et notamment du blues qu'on connaît. Juste après ces épisodes d'intenses émotions et de voilà, on vit des émotions super fortes et le retour à la vie normale est pas forcément évident. Ouais. Il y a un petit sas de décompression avec un peu de mélancolie, un peu de tristesse. On sait plus trop voilà le pourquoi du comment. Et puis après bon tout ça revient dans l'ordre, mais c'est quelque chose. Ryan en parlera probablement bientôt dans un article pour le Radaviste. Voilà, aborder ces sujets dont on met moins en avant dans l'ultra. Ouais.
Alors, et ben tu me fais vraiment plaisir parce que récemment sur Twitter, on m'a interpellé en disant mais qu'est-ce qui se passe, et tu l'as très bien dit à l'instant, qu'est-ce qui se passe quand le projet est fini, qu'est-ce qu'on fait de sa vie, entre guillemets, quand le projet s'arrête et que l'on n'a plus de raison de monter sur son vélo. Tu l'as très très bien résumé et j'ai hâte de lire le papier de Ryan. Et de la même manière, j'ai gardé cette question en mémoire pour Sofiane. Parce que je me pose la même question pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait quand on vient de remporter le Tour Divide? Donc c'est hyper intéressant. Et toi, dans ton cas, comment tu as rebondi? Quelle a été, est-ce que c'est une sensation que tu as découverte ou tu le savais déjà? Cette impression de vide après la réalisation d'un projet?
Alors c'est déjà un sentiment que j'avais connu puisque j'ai eu l'occasion de participer à quelques événements longue distance. Comment est-ce qu'on l'aborde? Je sais pas comment font les autres. Moi je vais plutôt parler de ce que je connais et de ce que j'essaye de mettre en place. Mais on me dit souvent mais tu fais que du vélo parce que je partage sur mes réseaux ce sujet-là et je mets pas en avant les autres parties de ma vie. Mais dans la vie de Thomas Bourret, il y a plein d'autres choses que le vélo, et je pense que la clé c'est d'être à l'équilibre entre
on
le
est
sport,
un petit peu coupé,
la
là,
famille,
Thomas.
Les amis, le travail, etc.
Là on est coupé, j'ai environ un mot sur trois.
Ah ben j'ai pas fait de grands mouvements.
Ouais, il y a une petite baisse de qualité là.
Est-ce que tu m'entends?
Je crois bien que tout le monde s'est mis sur Netflix dans ton immeuble. Ça y est, la voisine a allumé la télé.
Il est 13h48. Les gens retournent travailler.
Donc ils allument Netflix. Ok, très bien.
Je vais peut-être reprendre sur ce qu'a coupé, pas coupé. Je te laisse me dire.
Oui, bien sûr. Reprends la réponse telle que tu voudrais la dire.
Donc comment on fait pour la suite? Moi je vais te parler donc de ce que je connais moi et ce que j'essaie de mettre en place, mais je pense que le succès déjà pour aller au bout de ces aventures et pour être bien dans ces baskets, c'est trouver l'équilibre, un équilibre entre le sport, entre le perso, entre le pro, et aujourd'hui même si sur mes réseaux je communique essentiellement sur le vélo, il se passe plein d'autres choses dans ma vie et c'est ce qui fait que quand des aventures comme ça elles s'arrêtent ça va super bien.
Donc c'est d'autres projets qui prennent le relais sur une portion de ta vie et tu remplaces simplement une briquette de vie par une autre, mais tu te retrouves pas face à un immense vide sidéral où tu te questionnes sur qu'est-ce que tu vas faire demain.
Non, mais je crois que c'est le problème de pas mal de sportifs. Moi, c'est une question qui m'a beaucoup animé ces derniers mois. Quelle est la place qu'occupe le sport dans ma vie? Comment est-ce que on garde la balance sur ces sujets-là? C'est pas évident, c'est un travail de tous les jours et c'est aussi d'ailleurs pour ça que ça m'a amené à ce projet-là. Donc, pour un rapide petit historique, je fais ma première compétition d'ultra distance l'année passée, au Biking Man France. Ça se passe super bien, je finis deuxième, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Quand ça marche bien, on en veut tout de suite plus. Je m'inscris à la Tour Volcano, qui est cette course en Italie qui est plutôt connue, avec un plateau d'athlètes l'année passée qui était assez exceptionnel. Et je me dis, super, quoi, c'est la compète, on y va, je veux montrer ce que je sais faire, etc. Il s'avère que la Tour Volcano arrive dans un temps où professionnellement j'ai beaucoup de boulot, mon ancien responsable quitte son poste, etc. Donc pas mal de stress, etc. Et donc j'arrive en Italie pas à l'équilibre, vraiment, en me disant j'étais venu pour montrer ce que je savais faire, pour la compétition, etc. Sauf que faire du vélo sur des longues distances, la compétition et la gagne, ça peut pas être le moteur principal. C'est pas suffisant. Ça en fait partie, je suis un compétiteur, mais ça peut pas être tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La course se déroule plutôt bien, mais je prends zéro plaisir et je décide d'arrêter après 600 km. Alors que globalement, j'étais plutôt bien placé et que voilà, y a probablement des belles choses à faire. Et je me suis vachement réinterrogé à la suite de ça sur la notion de plaisir, la notion d'équilibre. Et donc revenir à un projet comme la GTMC, c'était aussi revenir à des fondamentaux de je fais du vélo parce que j'aime ça, pas pour la compétition, mais parce que j'aime être en nature, parce que j'aime me dépasser, etc.
Mais je me souviens.
Donc ouais, l'équilibre, c'est un élément
Je me
important.
souviens, ouais, de maintenant qu'on en parle, je me souviens, ouais, t'avoir vu dans le haut du classement avec Steven, avec tout le monde, et on était tous sidérés par le plateau. Bon, on a entre guillemets vite déchanté parce que Ulrich et Omar ont plié les Gaules parce qu'il y avait trop de pluie pour eux. Mais c'était intéressant, ouais, à voir en tout cas. C'était une belle épreuve. J'ai échangé brièvement hier avec Gauthier, qui avait très très bien performé aussi. On se retrouve dans 3 semaines en Espagne. Et j'ai vraiment hâte. Lui vient de faire une très belle perf sur Bassaroun. Donc j'ai hâte de rencontrer
Ouais,
réellement
on est en
Gauthier en
contact.
vrai. Ouais, il est cool. Il est vraiment cool.
Super personne. Lui et Léa sont super sympas et on est toujours en contact. Donc ouais, j'ai rencontré des belles personnes sur ces courses.
De quoi est fait l'avenir maintenant? Parce que...
Donc voilà, finalement, pour
Pardon?
répondre à ta question. C'était voilà, j'ai fini sur la question de et quoi après et puis l'équilibre
Ouais, j'avais
du
compris.
vide après
Ça, j'avais compris que tu avais
la
terminé.
course.
Et du coup, je me demandais sur l'après-après, l'avenir. Qu'est-ce que tu vas faire à l'avenir? Tu te laisses le temps de réfléchir ou tu as déjà un truc dans un petit coin de ta tête, une épreuve, maintenant que tu as fait le point?
Et bien maintenant que j'ai rééquilibré les balances, que j'ai presque récupéré de la GTMC, je serai présent au Maroc à la fin du mois de septembre, début octobre pour l'Atlas. J'étais initialement inscrit sur la Tour Volcano cette année et j'ai décalé mon inscription à l'année prochaine. Et donc j'ai tellement pris de plaisir sur mon VTT que j'ai décidé d'aller à l'Atlas. Donc l'Atlas, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas, c'est une course dans l'Atlas marocain, donc qui fait 1 200 km de VTT et dont effectivement notre amie Sofiane a remporté la première édition.
Haut la main.
Donc ça c'est à court terme, on dira. Haut la main, exactement. Donc d'ailleurs c'est très sympa parce qu'on a eu l'occasion d'échanger dernièrement à ce sujet et voilà, de partager quelques conseils, etc. Donc c'était bien sympathique. Donc ça voilà, c'est le court terme. Et puis sur le long terme, l'idée c'est de continuer à se faire plaisir sur un vélo. J'ai des discussions qui avancent avec mes partenaires pour rendre cette partie-là de ma vie un peu plus concrète, parce que je dirais que c'est un second métier, hein. On a un vrai métier qui est mon métier d'acheteur chez Cyclable, mais c'est un second boulot que d'aller pédaler, parce que je m'entraîne 6 jours sur 7, que voilà, je suis assez diligent avec toutes ces choses-là et que c'est du fun, mais j'y mets du cœur. Donc l'idée, c'est vraiment de garder cette balance entre de la compétition et puis des projets médias, parce que raconter des histoires, donner envie, faire rêver, inspirer, je crois que c'est aussi un moteur qui m'anime beaucoup et que j'ai envie de pérenniser.
Magnifique.
Est-ce que je peux compléter du coup ce qui amènera...
Bien sûr, vas-y.
Ouais, je voulais juste compléter. Donc, ce projet de la GTMC, c'était une traversée. Mais donc, il y aura une vidéo documentaire sur ce projet-là qui sera présentée lors du Rock d'Azur, dans un premier temps, pour voilà, partager l'expérience de l'intérieur avec les belles images de Ryan. Ouais.
Génial. Ben, écoute, ce qui veut dire qu'on va se rencontrer en vrai au Rock d'Azur avec Ryan.
Très probablement avec de belles cernes parce que je serai à peine de retour du Maroc. Le Maroc, l'Atlas part le premier. Samedi premier, je devrais arriver le mercredi. Si on part sur un temps de 4 jours et j'ai mon avion le vendredi et je serai au Roc d'Azur vendredi soir ou samedi matin.
Bon bah écoute, je réserve les mojitos. Je vais dès que l'on raccroche, je vais m'atteler à faire des commandes en très grande quantité de citrons pour qu'on se mette une race monumentale. Et ça va être très très drôle, je pense. Voilà. J'étais fier de moi, tu vois, jusque-là, parce j'allais te passer la main pour la minute de solitude que tu connais visiblement très très bien. Pour ceux qui ne sont pas habitués à cela, je vais quitter l'antenne et je vais laisser Thomas s'exprimer et dire ce qu'il veut. Alors ça peut durer une minute, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Mais en tout cas, Thomas, tu vas pouvoir te livrer à cet exercice que tu as pu entendre maintes et maintes fois avec d'autres athlètes. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Quant à moi, j'étais très fier d'avoir réussi à garder mon sérieux à peu près pendant presque une heure, ce qui ne m'est à peu près jamais arrivé. Donc, et voilà, j'ai tout ruiné à la fin en parlant d'une beuverie collective au Roc d'Azur. Donc, voilà, comme quoi, chacun son Everest.
Qui sera très vite terminé.
Ah bah bon.
Après 1200 km, généralement, on boit à demi-verre et on est
plus... Ah non, mais moi, de toute façon, après deux mojitos déjà, je perds l'usage de la parole. Et à quatre, j'ai plus aucune technique locomotrice. Donc, de toute façon, pour moi, ça va être très vite fait. Ryan, je ne sais pas. Et ça sera le plaisir de le découvrir sur le moment. Mais en tout cas, c'est sûr que ça va être vite plié, cette affaire. Donc, en tout cas, Thomas, merci, bravo, vraiment mille merci. Et bravo pour ce que tu fais, pour le partage et l'acuité avec laquelle tu partages cette expérience. Et je t'avoue que demain, je prends la route pour Auxerre pour aller récupérer un vélo et il n'est pas impossible que je prenne mon vélo perso et que je me dirige doucement vers Avallon pour voir un petit peu à quoi ressemble le début. Parce que là, tu m'as... Vis-à-vis de la GTMC, tu m'as donné envie. Voilà.
C'est un très beau parcours que je te recommande et que je recommande à
tous. Je te laisse pour ta minute de solitude. À très bientôt, Thomas.
Et donc après, j'éteins.
Et alors, après, tu n'éteins pas. Tu laisses comme ça, tu touches à rien, je te dirai quand couper. D'accord ?
Très bien. Ça y est, c'est le grand moment. Je crois que c'est le plus stressant de cette interview. Merci. Que dire ? Merci à ceux qui ont pris le temps d'écouter jusque-là. C'est un bel effort. Bravo. J'espère avoir amené un peu d'éclairage sur les motivations et l'envers du décor de projets comme celui de la GTMC et de finalement qu'est-ce qui se passe dans la tête de ceux qui pédalent longtemps, parce que je ne suis qu'un parmi tant d'autres. Et puis de se rappeler que le vélo, c'est du plaisir, que le plaisir, c'est le moteur et ça doit être la clé pour avancer. Donc continuez de vous faire plaisir sur votre vélo, que ce soit pour une traversée, une heure, une journée ou un mois, chacun à son niveau peut vivre sa petite aventure et c'est moi ce qui me motive à continuer de monter des projets comme celui-ci pour susciter l'envie et déclencher l'aventure de chacun. Merci à tous et merci Richard pour cette superbe invitation.